Cap Cap, Jacques Lavergne, bonsoir. Aujourd'hui, Cap Cap avec
Gilles-Michel Dorato,
Stéphane Louis.
En France, les médicaments remboursables représentent 90% de ceux vendus dans les pharmacies de ville. Un marché du médicament mondial qui s'élève à la somme considérable de 1104 milliards de dollars en 2016. Un marché qui est en augmentation de 93% depuis 2005. C'est dire les enjeux colossaux qui sont ceux des industriels du secteur, lesquels industriels sont prêts à tout pour vendre leurs marchandises, comme nous détaille une excellente enquête, une au moins excellente mensuelle alternative économique, dans sa livraison de janvier. Notre pays est le cinquième pays du monde où se vendent le plus de médicaments. Et comme la sécurité sociale rembourse la quasi-totalité des prescriptions médicales, le patient n'exerce bien évidemment aucun contrôle sur le coût de ce qu'il consomme. Là où il aurait un regard critique et responsable sur toute autre dépense qu'il effectuerait, en ce qui concerne le médicament, il en va tout autrement. Personne ne s'en préoccupe, comme le démontrent d'ailleurs les comptes de la sécurité sociale. Et comme c'est donc open bar, comme l'on dit, les industriels du médicament s'en donnent à cœur joie. Les laboratoires mettent en œuvre des stratégies commerciales agressives et intrusives destinées à circonvenir le monde médical et ses acteurs, médecins, étudiants en médecine, professeurs et doyens des universités. Ils multiplient les interventions auprès de ces professionnels de santé ou qu'ils exercent, hôpitaux, cabinets de ville, cliniques, etc. Le but recherché, sinon affiché, tend bien évidemment de faire prescrire en priorité les fabrications du labo que l'on défend. Et pour cela, tous les moyens sont bons pour séduire et enjôler le praticien. Cadeaux, dîners, flatteries diverses, week-ends ou voyages offerts, souvent sous couvert de formations. Formations bien orientées, vous vous en doutez. Certes, il existe bien de timides tentatives d'endiguer ce jeu pervers de séduction commerciale, comme par exemple la loi dite « anti-cadeau », qui remonte quand même à 1993, renforcée par la loi Bertrand, adoptée en 2011 à la suite du tristement célèbre scandale du Mediator, où l'Association nationale des étudiants en médecine de France et le collectif appelé la Troupe du Rire, ça ne s'invente pas, qui préconise aux étudiants de ne pas assister aux formations pendant l'internat ou de ne pas participer au buffet, voire de s'abstenir de signer le registre du labo qui permet à celui-ci de se constituer un très beau fichier. En matière de conflit d'intérêts, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la fameuse APHP, dirigée par Martin Hirsch, est une pionnière dans notre pays. Elle a publié en mars 2016 un rapport préconisant une série d'actions destinées à prévenir ce que l'on pourrait qualifier de relations incestueuses. Ce qui n'empêche pas qu'au moins 73% des médecins de cette fameuse APHP entretiennent des liens d'intérêt avec les laboratoires, c'est dire l'étendue de la gangrène, laquelle touche particulièrement l'hôpital public qui est devenu sur le marché français une cible stratégique de l'industrie du médicament. Une cible travaillée en profondeur et sans aucun scrupule éthique par les laboratoires, le tout bien sûr au nom d'une pure logique financière. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque la politique et le prix du médicament sont décidés par la puissance publique. Il faut donc que le lobbying des labos investisse largement dans ce domaine, ce qu'il fait avec efficacité. Sachez que le prix des médicaments est fixé par une négociation entre l'entreprise pharmaceutique et le CEPS, entendez Conseil économique des produits de santé, lequel compte combien d'emplois ? Ben, je vous le donne en 1000, 13 emplois, un sous-équipement qui, comme l'a souligné la Cour des comptes, biaise la négociation qui se déroule nécessairement dans un rapport de force inégal. Et puis ensuite, il y a le monde politique qu'il faut séduire, pour ne pas dire phagocyter. Sachez simplement, et je m'en arrêterai là, qu'à l'Assemblée nationale, 5% des sièges sont occupés par des médecins et que 80% d'entre eux ont des liens déclarés avec des laboratoires pharmaceutiques. Des députés médecins qui occupent 15% des sièges de la Commission des affaires sociales et qui en occupent la moitié des postes à responsabilité. C'est, vous l'avez compris, la commission qui prépare les lois relatives à la politique de santé et au financement de la Sécu. Bienvenue dans le monde merveilleux de la santé. Cela étant dit, nous allons aborder un tout autre sujet, beaucoup plus jouissif, vous allez voir. Nous avons trois invités aujourd'hui, excusez du peu, tous les trois associés dans une même passion, le spectacle de qualité, la culture et le chant, et en l'occurrence l'opéra, qu'ils veulent, si j'ai bien compris, populariser et démocratiser. Ils vont nous expliquer comment. Bonjour Rachel Esmaurice.
Bonjour Jacques.
Bonjour Gilles Orato.
Bonjour Jacques.
Bonjour Stéphane Nouy.
Bonjour Jacques. Alors,
Stéphane Nouy qui n'est pas un inconnu à KPK, puisque nous avons eu déjà l'occasion, en quelques mois, de passer une heure ensemble pour parler de son cabaret Le Moulin des Roches, sur lequel nous allons revenir. Alors, comment vous est venue cette idée de faire de l'opéra dans un cabaret? C'est-à-dire dans un endroit où on ne pense pas, a priori, le trouver. Qui c'est qui a eu cette idée-là sur les trois?
Eh bien, je vais laisser parler Stéphane et Gilles, qui sont amis de très très longue date. Et c'est grâce à cette rencontre que ça a pu être possible. Donc je laisse la parole à Stéphane, donc, qui est le propriétaire du cabaret.
Alors, on va dire des cabarets, parce que le Moulin des Roches, Stéphane, je me souviens de notre interview, le Moulin des Roches, c'est Mozac, c'est-à-dire un peu après Muret, dans la campagne. Oui. Et puis c'est aussi un établissement peut-être plus neuf, à Saint-Aurès, dans la toute banlieue de Toulouse, dans Toulouse quasiment.
Voilà, Saint-Aurès, oui, à côté de Toulouse. On touche à Toulouse dans une salle de 400 places. Et c'est vrai qu'on est amis avec Gilles depuis plus de 20 ans. Et je les ai invités un soir pour venir assister à une représentation musical, parce que bon, jusqu'à à peu près 3-4 mois, l'opéra, j'avais juste vu à la télé. Et donc, quand ils sont rentrés dans la salle avec Rachel, ils sont tombés amoureux du lieu. Et ils ont vu en quelques secondes qu'on pouvait faire de l'opéra dans cette salle.
Alors, c'est une drôle d'idée, parce que quand on va au cabaret, ben, on veut voir du strass, des paillettes, on veut voir des fesses, on veut voir des seins, mais pas forcément de l'opéra, non?
Moi, je suis tout à fait de ton avis. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit de l'opéra. Mais je dis, qu'est-ce que c'est, comment on peut faire? Et puis bon, c'est vrai que bon, c'est des professionnels de l'opéra. Ils m'ont expliqué un peu comment, enfin, leur vision. Et puis bon, moi qui aime le spectacle, c'est vrai que je découvre. Je suis en train de découvrir un monde qui est totalement opposé au musical, même si ce sont tous des artistes et des intermittents, enfin beaucoup d'intermittents du spectacle. Mais je découvre comme un petit gamin, et puis ça se passe très bien. L'histoire démarre, mais après ils vont parler mieux que moi, parce que sur l'opéra je ne pourrais pas être quand même compétent pour parler de tout ça. Mais voilà, donc le lieu l'aura plu, il s'y prête, et c'est surtout faire venir les gens du musical, les clients du musical, leur faire découvrir de l'opéra dans un cabaret, parce qu'ils vont plus facilement venir à l'origine et au début dans un cabaret qu'à l'opéra du Capitole, parce que c'est vrai que même moi, j'ai jamais eu l'idée d'aller voir une représentation au Capitole, voilà. Ou dans d'autres opéras.
C'est quoi? C'est pour dégrossir un peu les gens, pour leur montrer que finalement l'opéra, c'est accessible à tout le monde?
Mais disons que voilà, c'est accessible, c'est du spectacle. Alors on se fait souvent une idée qui peut être fausse sur l'opéra. Marie, que bon, Rachel a dépoussiéré quand même l'opéra, parce que c'est les puristes viendront voir le spectacle, mais c'est surtout les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un opéra qui démarrent par venir au Moulin des Roches, et puis pour après ils apprécient le spectacle.
Bon, on n'a pas encore de statistiques, si je peux dire, c'est une expérience un peu neuve, hein, puisqu'elle a démarré, voyons Rachel, vous avez démarré quand?
On a commencé donc le 4 février, donc on a démarré les premières représentations. Effectivement, comme dit Stéphane, c'est assez curieux que ça se fasse dans un music-hall, mais en fait, ce n'est pas si éloigné que ça, bien que ce ne soit pas habituel, parce que ça reste du spectacle vivant. Et ces deux familles peuvent tout à fait se côtoyer et se rejoindre finalement. Parce que dans l'histoire de la musique, comme on l'explique à l'introduction de l'opéra dans le cabaret, finalement, l'opéra est juste le grand-père du cabaret dans l'histoire de la musique.
Oui, l'opéra, vous ne saviez pas ça, Stéphane? Oui.
Ah, j'apprends.
Parce que nous avons là deux groupes de professionnels, un professionnel du cabaret qu'on connaît bien, et puis à côté, deux professionnels de l'opéra. Alors Rachel, vous chantez encore peut-être?
Oui, je chante encore, je suis artiste lyrique mezzo-soprano.
Ah, on a déjà eu des mezzo-soprano au micro, oui.
Oui, et ensuite j'ai toujours eu une carrière parallèle en tant que directrice artistique et que metteur en scène, donc j'ai toujours fait ces deux carrières parallèles.
Et vous Gilles, C'est une nouveauté pour vous?
Pas vraiment. En fait, nous avons une société, une agence événementielle qui s'appelle le Colisée des Arts, dans laquelle nous organisons des événements essentiellement artistiques dans des lieux emblématiques. Alors, par exemple, on a monté des Carmen dans une grotte. Dans un Aven, exactement, l'Aven Armand.
L'Aven Armand, oui.
Voilà, pour ceux qui le connaissent. Oui. Donc,
c'est pas une grotte, hein,
Aven. Oui, c'est un Aven, voilà. Hein, c'est un Aven. Voilà.
Alors, comment était l'acoustique de l'Aven Armand? Vous avez dû vous peler de froid, non?
C'est
en été.
Oui, mais en été, en hiver, c'est toujours 12 degrés et toujours humide, surtout. Donc, voilà, c'est les caves de Roquefort, on n'est pas loin. Ça s'est très, très bien passé. Ça a eu un succès terrible. L'acoustique, bon, il suffit de la travailler. Ça aussi, c'est un métier. Le son, bien sûr, la voix est un métier, mais le son en est un autre. Et dans nos productions, ben, on essaie de s'entourer de professionnels à tous les niveaux. Ça se travaille aussi, tout simplement. Alors, effectivement, donc, dans notre société, donc, dans le Colisée des Arts, avec lequel on organise les événements, bon, on a travaillé au Palladia, on travaille au Manoir du Prince, on travaille, enfin, un peu partout. Et bon, après, on a travaillé à Marseille, on a travaillé, bon, dans d'autres lieux. Si vous voulez, on s'est dit, bon, c'est très bien ce qu'on fait, mais on s'est dit, on aimerait quand même amener l'opéra, amener les gens à venir à l'opéra d'une manière plus facile. Parce qu'effectivement, nous-mêmes qui sommes consommateurs d'opéra, aujourd'hui, c'est un peu compliqué.
Pourquoi ? Parce que c'est cher ? Parce que c'est intimidant ? Parce qu'il faut une culture pour aborder l'opéra ?
Il y a un peu tout ça. Bon, c'est pas que ce soit vraiment très cher, mais enfin, bon, ça dépend. Les grosses productions sont quand même à des tarifs, bon, on est vite à 100 euros, une production. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que quand, le jour où on en entend parler, eh ben, il y a déjà plus de place. Les abonnés, donc, sont présents, donc, il y a plus de place disponible. Ensuite, bon, ben, effectivement, ça demande une soirée, ça demande de consacrer sa soirée uniquement à l'opéra. Parce que, si vous voulez, l'avantage aussi de l'apport qu'on fait, nous, au Moulin des Roches, c'est qu'en fait, on peut présenter un spectacle et un dîner-spectacle. C'est-à-dire que si vous voulez passer la soirée...
C'est pas un peu bizarre de manger pendant l'opéra?
On ne mange pas pendant l'opéra, comme on ne mange pas pendant un spectacle de cabaret. On mange d'abord, et après on se régale. Bien sûr, il faut respecter les artistes, donc on ne va pas manger pendant qu'ils évoluent sur scène. Donc ça, c'est un apport supplémentaire, si vous voulez, par rapport donc, à ce qu'on peut trouver à l'opéra en général. Par contre, bon, nous avons donc justement voulu conserver une certaine qualité. On aime bien les fondamentaux à tous les niveaux dans la vie. Je dirais que les textes et les écrits fondamentaux sont pour nous importants. Et on veut dévoiler de l'opéra aux gens, mais en même temps en gardant les valeurs traditionnelles de l'opéra. C'est-à-dire que, bon, Rachel vous expliquera par la suite, puisque c'est elle vraiment qui a écrit le spectacle, la teneur exacte du spectacle lui-même. Et donc, c'est pour ça que quand on est allé effectivement rendre visite donc, à notre ami Stéphane, on a vraiment tilté sur le lieu en se disant, mais oui, c'est là.
Et qu'est-ce qu'il avait, ce lieu, de particulier par rapport à d'autres que vous aviez vus?
Il nous a enchantés, parce qu'en fait, ce lieu, c'est une vraie salle de spectacle. C'est une salle qui a été conçue pour le spectacle. Ce n'est pas une salle des fêtes dans laquelle on a mis deux rideaux et un tapis par terre. Il y a des praticables, il y a de l'éclairage,
c'est un lieu professionnel.
Des rampes, voilà, c'est un lieu professionnel. Et ça, c'est difficile à trouver, malgré tout. Trouver une salle à taille humaine, parce qu'aussi on n'a pas, si vous voulez, quand même la prétention d'occuper la Halograin ou le Capitole.
Aujourd'hui
ou même demain. On laisse ça à des gens qui sont très bien. D'ailleurs, je salue Monsieur Christophe Gristi que nous avons rencontré et qui est quelqu'un de très agréable. Donc on n'a pas ces prétentions-là. Nous, on reste à notre niveau. On se régale, si vous voulez, justement, à travailler dans ce sens-là.
Et pour le cabaret, c'est un changement d'habitude. Est-ce que ça change pour vous, Stéphane Nouy, quelque chose par rapport au spectacle que vous présentez?
Non, disons, le spectacle est totalement différent, bien sûr. On fait manger, alors on accueille les gens à 19h. Le repas est de 19h à 21h et la représentation est à 21h.
Donc pour vous, ça ne change pas grand-chose?
Pour nous, ça ne change pas. Nous, le gros avantage que ça amène au cabaret, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'auraient jamais mis les pieds dans un music hall, parce qu'au début même on a posé la question aux artistes: est-ce que vous connaissez le Moulin des Roches? C'était la première fois qu'ils mettaient un pied dans la salle et personne n'avait entendu parler du Moulin des Roches, alors que c'est des artistes quand même régionaux.
Oui, mais qui sont plutôt, eux, dans un autre répertoire.
Dans un autre monde. ou peut-être que c'est le music hall qui est dans un autre monde, je ne sais pas comment on va le prendre. Mais c'est vrai que c'est des gens qui vont plus facilement venir mettre un pied au Moulin des Roches et pour découvrir de l'opéra, qui ne seraient peut-être pas allés directement au Capitole. Voilà,
c'est moins impressionnant?
Pour le public qui viendrait, possible, mais j'ai jamais mis, moi, enfin, je vais bientôt découvrir le Capitole, parce que j'ai jamais mis les pieds en 49 ans.
Ah, bah, déjà, c'est une réussite, on en a un qui
déjà, il y a des gens qui va aller au Capitole. Voilà. Mais voilà, et puis après, c'est aussi de faire venir, comme je disais tout à l'heure, les puristes du Capitole, parce qu'il faut...
Et vous croyez qu'ils vont venir, les puristes du Capitole?
S'ils sont curieux, oui. Après, on ne va pas se comparer au Capitole, parce que ça serait un peu prétentieux de notre part.
Non, mais c'est pas du tout le même
mais
registre.
Mais il y aura déjà, comme on disait Gilles, il y aura un dîner avant pour celui qui veut dîner, parce qu'on n'est pas obligé de venir dîner pour voir, on peut venir juste voir le spectacle. Et puis, disons qu'il y a la curiosité avec les artistes professionnels et avec une proximité. Voilà, on est, le public est très proche de la scène, très proche de l'artiste, et c'est donc un autre style.
Certains puristes sont déjà venus.
Oui, et alors qu'est-ce qu'ils ont dit?
Alors, je laisse la parole à Rachel, puisqu'elle a eu les commentaires.
Le puriste de l'opéra, bon, on va pas faire trop dans le cliché, mais on le voit un peu quand même pour quelqu'un d'un certain âge, un peu conservateur.
Mais le puriste est initié, donc il a en lui les codes de l'opéra, donc il a les traditions. Et ce qu'il a besoin, quand même, en venant faire le curieux, c'est de retrouver ses codes traditionnels, de retrouver des symboles dans la mise en scène. Et on a fait en sorte que tout soit retransmis. En fait, quand j'ai fait cette mise en scène, j'ai pas du tout eu envie de me dénoter des mises en scène actuelles. J'ai eu envie de reprendre juste les traditions, ce qui avait déjà été fait. Et ce petit parfum d'autrefois, le public a besoin de le retrouver, a besoin de retrouver l'essence de ce qu'ils voyaient quand ils allaient autrefois avec leurs grands-parents ou avec leurs parents au théâtre du Capitole. Et de le voir... au sein d'un théâtre de... Enfin, je l'appelle le théâtre de music-hall, du coup, je mélange un petit peu les termes. En fait, c'est, finalement, c'est pas si dénaturé que ça.
Ah, y a pas, non, on dénaturé, non, mais c'est vrai que c'est surprenant de le voir dans ce cadre-là.
Surprenant, c'est certain, oui.
Il faut surprendre de nos jours, parce que sinon, on s'ennuie.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis, on va parler un peu du fond du spectacle tout à l'heure. On va écouter un premier morceau de musique que vous nous avez amené. Alors on va commencer par, c'est votre choix, Gabriel Fauré. Pourquoi Gabriel Fauré?
Parce que c'est un compositeur que j'ai beaucoup porté. Pendant 7 ans, je me suis consacrée que à sa musique. J'affectionne particulièrement la mélodie française et particulièrement Gabriel Fauré. Et pour avoir porté son répertoire pendant 7 ans, j'avais envie de vous faire découvrir. Donc,
qu'est-ce qu'il a écrit, Gabriel Fauré?
Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit... C'est difficile de dire, hein, parce qu'il y a 66 airs en mélodie française. Mmh. Ensuite, il a écrit seulement pour piano. Ensuite, il y a Pavane, qui est très connu, qui est et pour chœur
si
et pour orchestre.
Si vous voulez a cappella, ne vous gênez pas. Hein, je ne sais pas si la voix est chaude, mais...
Vous êtes adorable, Jacques, mais un jour de laryngite, je vais être obligée de vous le refuser. Bon, Par contre, je me ferai un plaisir de vous faire écouter mon album.
Bon, écoutez... On va aller écouter. Alors, on va écouter Le Papillon et la Fleur, donc de Gabriel Fauré. C'est vous qui chantez.
Et je l'interprète, oui.
Voilà, ben c'est comme si on vous avait. Thank you. Voilà, vous venez d'entendre Rachel Esmoris, une de nos invitées aujourd'hui, qui est avec nous autour de cette table bien remplie, avec Gilles Zorato, avec Stéphane Louis du Moulin des Roches. Et elle nous chantait Le papillon de la fleur de Gabriel Fauré. Et maintenant, où elle chante un peu moins, fait de la mise en scène, et notamment, nous parlons de l'opéra de Poche et de Vérone à Paris, qui est votre nouveau spectacle. Alors pourquoi opéra de Poche, étant précisé que 2 s'écrit en chiffres? J'ai vu ça sur vos flyers, donc ça m'a interpellé.
Alors, l'Opéra 2, c'est un deuxième endroit où on peut écouter de l'opéra sur Toulouse, puisque c'est un opéra que l'on produit donc 2 fois par mois. Donc voilà, Opéra 2 Poche. Et ensuite, Opéra 2 Poche qui tient dans la poche, parce que c'est un condensé d'opéra où l'on propose 3 opéras différents, où on voyage dans 3 univers totalement différents. On a Les Noces de Figaro, qui avec le livret de Da Ponte, on a Roméo et Juliette.
Mozart, si, n'oublions pas Mozart.
Voilà, quand même.
Bon, Da Ponte, oui, mais Mozart,
il faut pas
Mozart. L'oublier. Oui, absolument, oui, comme dirait Rocco Femia, oui.
Mon ami, que je salue d'ailleurs, Rocco.
Oui, également. On a Roméo et Juliette donc de Gounod, parce qu'il y a eu plusieurs versions aussi donc, de Shakespeare, et La Bohème donc, de Puccini, d'après le roman de Murger, qui est aussi un opéra proche du peuple et qui parle de cette belle époque.
Ça veut dire que c'est un peu pourri, mais ce ne sont pas 3 opéras, ce sont 3 tableaux. Donc pourquoi vous avez sélectionné ces 3-là avant de venir à ce que vous avez sélectionné dans ces opéras?
Alors, ces 3-là, parce qu'ils sont universels, ils vont autant parler aux connaisseurs qui vont aimer reconnaître ces œuvres qui sont quand même très jouées, qui font partie des œuvres les plus jouées. Et puis ensuite, pour celui qui vient de découvrir l'opéra, donc Les Noces de Figaro, ça reste quand même quelque chose de léger, très enlevé, et qui finit bien, puisqu'on finit par un mariage. Et ensuite, Roméo et
Pourquoi il faut que ça finisse bien?
Ah, un opéra...
Oui, ça fait tous ne finissent pas bien, quand même. Hein.
C'est la tragédie, ça.
Bon, c'est vrai qu'on essaye d'en modifier, parce qu'il y en a un qui a eu l'idée farfelue de modifier l'assassinat de Carmen, qui n'est plus assassiné parce que c'est une femme. Enfin bon, on voit que le 21e siècle et la connerie vont très bien ensemble.
Oui, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est fort dommage d'avoir des idées aussi farfelues. Ça a été tellement bien écrit.
Ça va au-delà du farfelu. Je reviens au terme que j'ai employé, que je ne vous demande pas de reprendre. Donc, Les Noces de Figaro, okay, c'est gai, c'est entraînant. Ça, on commence d'ailleurs par Les Noces de Figaro.
Voilà, on commence par Les Noces de Figaro. Ensuite, on a Roméo et Juliette de Gounod, qui en fait appelle la mémoire collective de chacun, parce que Shakespeare, on l'a tous plus ou moins étudié à l'école, et ça, c'est vraiment un thème qui parle à tout le monde. Et ensuite, donc, on finit par La Bohème de Puccini, qui est aussi une représentation du peuple et qui est très facile à la compréhension.
C'est ça qui a présidé à votre choix, c'est de prendre des opéras très accessibles au public, pour ne pas les rebuter d'entrée.
Ah, c'était important. Oui, il fallait que ça parle à l'humain, il fallait que ça rentre dans le cœur des spectateurs. Et avec ces opéras-là, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Ça, c'était important dans le choix.
Alors après, au sein de ces 3 œuvres, vous avez fait des choix parce que vous avez... Bon, chaque tableau dure à peu près combien? 20 minutes,
oui,
à peu près, une vingtaine de
c'est
minutes.
Ça. Vous l'avez vu, Jacques, non?
Oui, je suis venu voir. Vous savez, je ne parle jamais sans voir. Hein. Je suis très, très professionnel, hein, très scrupuleux. Donc, je suis venu voir. J'ai pris du plaisir, d'ailleurs, soyons clairs.
Hein. Merci.
D'abord, parce que la salle est parfaite. Ensuite, parce que le spectacle est tout à fait à la hauteur. Je ne m'attendais pas, d'ailleurs, à voir ça. J'étais un peu bluffé au départ, parce que, bon, quand on vit au cabaret, je me suis dit, on fait peut-être une version opéra un peu cabaret. On attendait à voir... Peut-être des mezzo-soprano laissés à l'air. Ben non, voilà. Non.
Dommage.
Je me suis polarisé sur la voix et pas sur le reste. Comment vous avez opéré les choix au sein de chacune des œuvres?
Alors, j'ai surtout pris les airs qui étaient les plus connus, C'était important parce que je voulais que ça réveille les mémoires collectives pour ceux qui avaient déjà entendu, soit avec justement avec les grands-parents, avec les parents. Il fallait quand même que les airs soient un peu connus. Et ensuite, j'ai privilégié aussi tout ce qui était duo, trio, quatuor, parce que pour découvrir l'opéra, le fait de voir plusieurs chanteurs-comédiens sur scène, c'est beaucoup plus facile à regarder que se concentrer sur un seul chanteur.
Alors, vous avez des chanteurs, vous l'avez dit, qui sont des professionnels.
Bien sûr.
Hein ? Donc, quelle est la palette des voix là, que nous avons ?
Alors, on a une soprano lyrique, on a une soprano léger, on a une mezzo-soprano, on a un baryton basse et on a un ténor. Ils sont tous issus de théâtres nationaux, ils sont tous dans leur carrière, soit en tant que soliste, soit en tant que choriste professionnel.
Voilà, donc ce ne sont pas des gens qui ont été rejetés de l'opéra classique. Non, ce sont des gens qui chantent et qui...
Non, justement...
Que l'on peut entendre sur des scènes nationales en France ou ailleurs.
Tout à fait. C'est plutôt des artistes engagés dans leur art et qui avaient envie d'être plus proches du public.
On dit que l'opéra, c'est toujours un ténor qui veut se faire une soprano et qu'elle est empêchée par un baryton. C'est exact. Non, j'ai déjà entendu cette formule.
Ça peut. Après, je ne suis pas forcément au courant de ces choses-là. Je suis désolée, Jacques, mais non, en fait, je ne peux pas répondre. Mais vous savez, tout est possible.
C'est un peu le principe de l'opéra, quand même. Quand on regarde les livrets, c'est quand même un peu le fond de l'histoire, souvent.
Bah, la mezzo a souvent le mauvais rôle. Hein. C'est souvent soit une sorcière, soit c'est la mère pas contente. La soprano, elle vit des choses plus légères. C'est la grande amoureuse. Le ténor aussi.
Alors, ces chanteurs qui sont des professionnels d'opéra, donc qui vont chanter à droite, à gauche, partout, leur partition, ils se retrouvent un jour dans un cabaret. Comment ils l'ont accepté, ça ? Est-ce qu'ils ont pensé que c'était pour eux un déclassement ou est-ce que c'est une aventure qui leur a plu ? Ils ont joué le jeu ?
Non, au contraire, ils ont été très étonnés de la proposition. C'est vrai que tous ces artistes-là déjà essayent de démocratiser leur art en l'amenant parfois même dans des salles des fêtes qui ne sont pas forcément les endroits où on va rendre hommage à l'opéra parce que le cadre ne s'y prête pas.
C'est ce qu'on peut appeler la défaite de l'opéra. Alors,
voilà, donc ça ne s'y prête pas forcément. Et là, le fait de pouvoir porter leur art, mais dans un endroit qui en plus se prêtait au spectacle, avec toute une technique qui va aussi avec le vrai rideau rouge, avec les praticables qui montent, qui descendent, une vraie scène, une acoustique. Je pense qu'ils ont été... non, c'est pas je pense, ils étaient tous très emballés par
ils
le projet.
Ils n'ont pas craint pour leur image que peut-être ça les dévalorise, alors que ce n'est pas du tout le cas, hein, soyons clairs, mais certains auraient peut-être pu le penser.
Non, pas du tout. Ils l'ont même très bien assumé, puisqu'ils ont porté le projet à l'extérieur, ils en parlaient à l'extérieur. Donc, non, ils ne l'ont pas vécu de cette façon-là.
Ils sont jeunes, hein, il faut le dire aussi. Donc, ils ont peut-être une vision de leur métier un peu plus aérée que les anciens.
Je pense aussi que les mentalités évoluent, le spectacle évolue et les artistes évoluent avec. Ils ont voulu répondre à une demande d'aujourd'hui.
Alors, il n'y a pas que des chanteurs. Puisqu'il y a un comédien,
ah,
c'est
oui.
Un peu le monsieur loyal hein,
oui.
qui va passer, repasser, expliquer, poser un peu le cadre de l'opéra.
Oui.
Alors, comment s'appelle-t-il ?
Donc, il s'appelle Pascal Sug. C'est un comédien qui incarne donc, le rôle d'Orphée. Orphée qui est ambassadeur de l'amour, de la musique, et qui en fait est le passeur d'histoire de ces trois opéras et qu'on retrouve tout au long de cette soirée.
Donc c'est un peu lui qui fait le lien entre les tableaux. C'est vrai qu'il intervient, là, il passe comme...
Voilà.
C'est assez surprenant au début et puis on se rend compte qu'après, c'est lui qui raconte un peu l'histoire finalement, qui replace les spectateurs dans le contexte.
Le contexte, oui, et qui distille ses petites plumes ça et là dès qu'il s'agit d'amour.
Alors c'est vous qui avez tout mis en scène, Rachel ?
Oui.
Oui ? Ça a été un gros boulot ?
Ça a été un travail de 6 mois entre l'écriture du spectacle et l'écriture de la mise en scène, effectivement. Donc, quand je suis arrivée face donc aux artistes, tout était écrit pour qu'on puisse travailler de manière intelligible et logique. Et je n'ai rien inventé dans cette mise en scène. J'ai juste repris modestement.
Vous avez fait classique, vous avez.
Voilà, je
n'avais pas mis votre patte.
Non, pas du tout. J'ai voulu rester très classique et c'était très volontaire.
Il y a quelque chose en plus qu'on ne voit pas forcément au cabaret, mais je parle sous le contrôle de Stéphane Louis, c'est qu'il y a des musiciens. Au cabaret, il y a de la musique, mais il n'y a pas forcément les musiciens.
Et oui, là, il y a des musiciens en live. C'est vrai qu'on ne peut pas se le permettre au cabaret. Ça serait beaucoup plus compliqué.
Et beaucoup plus cher, surtout.
Et beaucoup plus cher après, un second choix. Mais là, il y a quatre cordes, un piano. C'est vrai que si on avait ça au cabaret, ça serait exceptionnel.
Ça viendra.
Mais il faut y penser, peut-être, non?
Oui, mais là, c'est vrai que pour le moment, bon, au cabaret, on a 14 artistes sur scène. Là, il y en a quand même à l'opéra, il y en a 11, si je... Oui, 11. Après la scène, on ne peut pas l'agrandir.
Avant de revenir aux musiciens, une question. Comment vos artistes de cabaret, est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'ils sont venus voir? Qu'est-ce qu'ils en ont dit?
Bien sûr. En général, c'est important que nos artistes viennent voir, viennent découvrir ce monde. Comme j'ai invité aussi les artistes de l'opéra sur deux représentations pour qu'ils viennent découvrir le musical aussi. Et puis, je pense que ça a fait unanimité parce que tout le monde s'est régalé dans des styles différents. Et puis, bon, le but, c'était de faire une équipe aussi parce que le Moulin des Roches, c'est du musical et maintenant de l'opéra.
Donc, ça, c'est une nouvelle vie qui démarre pour le Moulin des Roches.
Oui, puis c'est vrai que c'est bien de se diversifier un petit peu parce que, bon, le but, c'est que la salle fonctionne le plus souvent possible. Et puis, l'opéra est quand même prestigieux. Donc ça ne peut nous amener qu'une bonne clientèle et donc personnellement je suis très heureux.
On finira par faire de la radio peut-être au Moulin des Roches un jour.
Pourquoi pas, on pourrait faire un petit direct.
Ah, on peut le faire, oui, si vous nous invitez,
on va se
déplacer avec le matos.
C'est
non,
fait.
Mais on pourrait peut-être, oui, faire, je ne sais pas, un direct pendant le spectacle.
Oui, bien sûr.
On va trouver des idées, plaisir. On a amené l'opéra, on peut bien y amener la radio, c'est quand même peut-être beaucoup plus simple.
Je valide.
Alors, ces musiciens aussi, des professionnels?
Bien sûr, oui.
De Toulouse, d'ailleurs
Alors, on a vraiment tenu à travailler avec des artistes sur notre territoire. Donc, ils ne sont pas forcément de Toulouse même, mais ils sont tous de Midi-Pyrénées. Certains travaillent dans des orchestres institutionnels, d'autres tournent en tant qu'intermittents du spectacle sur des projets différents, mais tous sont professionnels, oui.
Ce qui est amusant, c'est qu'ils ne sont pas dans une fosse, hein, comme pour y avoir un opéra, mais ils sont pas dans la salle, ils sont sur une petite estrade,
oui.
Par côté, on les voit, ils sont d'ailleurs un peu costumés, légèrement, mais ils sont costumés.
Oui, bien relevé, Jacques. Et c'était vraiment volontaire de notre part de les valoriser, de les mettre beaucoup plus proches et du public, et aussi des autres artistes, des chanteurs-comédiens, pour qu'ils puissent participer aussi à la mise en scène, qu'ils puissent être en interaction avec ce qui se vit dans le vivant. C'est vrai qu'être dans une fosse, ça peut avoir des côtés parfois frustrants, même si, de toute façon, la configuration d'un opéra ne nous permettrait pas de faire autrement. Mais là, on pouvait le faire et on a voulu valoriser autant les musiciens que les chanteurs et le comédien.
Alors, les costumes, il y a de très beaux costumes. Qui c'est qui a fait les costumes? Ne me dites pas que c'est vous.
Alors,
ou alors c'est Gilles, peut-être. Je le vois. Je le vois mal à la machine à coudre. Mais
oui, quoi que mon père a passé 25 ans chez Singer, mais bon.
Oui, mais alors, ça ne se transmet pas par les gènes.
Non, pas ça.
Ce n'est pas moi-même, bien évidemment, mais par contre, voilà, le cabaret est pourvu d'une costumière avec qui on a travaillé main dans la main. Et donc, voilà, ils ont été faits sur place.
Et les décors? Parce qu'il y a du décor, là. Vous n'êtes pas tombé dans le décor minimaliste. Hein.
Alors là, Jacques, je viens vers vous, là. Je ne suis pas très bon couturier. Par contre, au niveau des décors, on a des idées.
Oui.
Et j'ai deux mains aussi, voilà. Et on a travaillé beaucoup sur les décors. On a eu la chance de récupérer, en fait, pas mal de décors du Théâtre du Châtelet à Paris. Donc, ce sont de vrais décors qu'on a récupérés et qu'on a modifiés, Bon, on les a mis à notre patte, en fait, pour se coller donc, dans le spectacle.
Et donc, c'est vous qui les avez montés?
Oui, tout à fait.
Donc, c'est vraiment une production familiale. Hein, entre...
C'est ça.
Voilà. Montée, mise en scène.
C'est ça. Chacun son rôle, en fait.
Et donc, vous pensez que c'est un spectacle, on va parler de choses grossières, mais qui va rapporter de l'argent? Vous l'avez fait pour ça ou pas?
Franchement, je vais vous dire, j'ai 53 ans.
On ne l'aurait pas dit, je vous en aurais donné 20 de moins.
Il y en a certains qui parlent de marques de montres à un certain âge et d'être assis. Bon, voilà, bon, chacun parle de ce qu'il veut. Bon, je suis dans un âge, si vous voulez, où je dirais les projets que je mène aujourd'hui sont surtout amenés par le plaisir, avant tout. Donc, nous avons monté ça avec Rachel pour nous faire plaisir, parce que nous aimons le spectacle, nous aimons l'opéra, nous aimons les gens. Et donc, c'est un partage. Voilà, c'est un partage, si vous voulez, qui a été mené pour arriver à ça. Bon, bien sûr, évidemment, je suis un mécène, mais bon, on ne veut pas perdre d'argent sur cette affaire. Mais bon, je dirais, c'est pas le... Franchement, l'argent, c'est vraiment pas la volonté, puisqu'en fait, notre volonté, voilà, c'était de faire aimer l'opéra et de travailler en s'amusant, on va dire. Voilà, notre volonté, elle est là. Je veux dire, aujourd'hui, j'attends pas après ça pour vivre.
Et pour vous, Gilles Zorato, l'opéra, vous y êtes venu comment ?
Alors l'opéra,
je regarde votre parcours, là vous avez fait tout à fait autre chose, un peu d'ameublement, mais on l'avait vu avec les décors.
Que vous voyez, voilà, ça, vous l'avez bien vu.
Je l'avais compris, voilà. Mais avant, comment vous y êtes venu ?
Ben, en fait, j'y suis venu par goût. Je dirais que tout petit, je fredonnais déjà des airs d'opéra, tout petit. C'est marrant parce que je ne sors pas d'une famille, bon je suis italien comme mon nom peut le laisser présumer. Je salue la communauté italienne, donc sur Toulouse.
Elle nous écoute, elle nous écoutera encore plus mercredi soir dans Ciao Italia.
Voilà. Donc encore, je disais encore tout à l'heure, voilà, un grand bonjour à Rocco Femia, qui d'ailleurs, je le cite, nous aide avec Radici, justement, pour ce spectacle. Et je tiens donc à le remercier.
Mais vous savez que vous pourriez le mettre sur scène et le faire chanter. C'est un redoutable chanteur.
Mais je sais.
On a pu l'entendre encore vendredi soir.
On va le faire.
Les émigrés, quand les émigrés, c'était nous.
C'est ça, Tournefeuille au phare.
Oui, voilà,
tout à fait. C'est vrai que ça a été un grand succès.
C'est un beau porteur de projet, c'est sûr.
Voilà, et on sera avec lui d'ailleurs dans les inoubliables donc, du cinéma italien. Voilà, donc à Saint-Pierre-des-Cuisines, le 3 mars.
Nous y serons aussi.
Voilà.
Alors, donc l'opéra, vous fredonniez, mais entre fredonner et monter des spectacles à l'opéra, c'est pas tout à fait la même
chose.
C'est
sûr.
Est-ce que c'est votre voisine, c'est Rachel
Esporis ? Ma voisine et ma compagne, vous voulez dire.
Voilà, j'y arrivais doucement. Est-ce que vous y êtes venu par amour de l'opéra ou par amour de la soprano ?
Je suis allé à l'opéra avant de rencontrer Rachel, je vous rassure. Et après, depuis, alors à l'époque, je dirais, j'y suis allé tout seul. Ou on va dire mal accompagné, peut-être.
Oui,
ça arrive aussi.
Oui.
Et des fois, vous partez à deux et vous vous retrouvez tout seul, en fait. Vous êtes à un spectacle, mais vous y êtes tout seul au spectacle, parce que la personne à côté n'est pas avec vous, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Ceci étant, si vous voulez, bon, j'ai pu, grâce effectivement à la rencontre avec Rachel, j'ai pu apprécier encore plus donc l'opéra. Bon, je dirais que... J'aime beaucoup aussi, on a vraiment les mêmes goûts en termes de musique. Gabriel Fauré, j'adore Gabriel Fauré, j'adore Saint-Saëns, j'adore Satie, j'adore Debussy. On a vraiment les mêmes goûts, je dirais, en termes de musique. Et ça nous permet, de faire des voyages musicaux. Vous voyez, on était en juin à Vérone, donc nous sommes allés voir Rigoletto dans les arènes de Vérone.
Alors, Vérone, je rappelle quand même que...
S'appelle de Vérone.
Votre spectacle, c'est de Vérone à Paris, donc tout ça se recoupe quand même.
Voilà, exactement. Voilà, on a de la suite dans les idées. Et c'est vrai que ça nous est arrivé même d'aller à Reims voir Madame Butterfly, pour voir une amie donc, d'ailleurs de Rachel, qui est Rie Amada, qui est une chanteuse toulousaine donc, très connue, qui interprète, je crois que c'est une des interprètes numéro un de Madame Butterfly en France aujourd'hui. Et donc voilà, nous sommes allés la voir. Enfin, je veux dire, bon, on allie encore ce que je vous disais tout à l'heure, le plaisir et le travail.
Je vois que vous êtes sportif, hein, je vois squash.
C'était avant.
Oui, c'était avant. Parce que
Que je fasse les décors, parce que j'ai pas eu le temps. Maintenant. Mais quand vous voulez, Jacques, j'ai encore ma raquette.
Ouais, mais écoutez, je crois avoir la mienne, il y a longtemps que je ne l'ai pas touchée, mais on pourrait essayer.
Avec grand plaisir.
Alors Rachel, vous avez fait vos études à Perpignan, donc vous direz.
Oui.
Une brune comme vous, ça ne peut être qu'une catalane. Évident, je le suis. Non, vous n'êtes pas catalane.
Ne dites pas ça à une Andalouse, s'il vous plaît.
Enfin, bravo, vous êtes une Andalouse du Nord. Hein. Il y a un conservatoire à Perpignan ?
Oui, il y a un conservatoire à Perpignan. J'y suis rentrée à l'âge de 5 ans, où j'ai commencé par l'éveil musical. À l'époque où il fallait faire 3 ans de solfège avant de pouvoir toucher l'instrument. Et puis très vite, en fait, à 7 ans, j'ai pu intégrer la classe de piano et j'ai poursuivi mes études en piano durant quelques années.
Et pourquoi vous êtes tournée vers cette formation ?
Piano ?
Oui.
Alors, on faisait tous du piano. On était quatre enfants et on devait tous toucher le piano.
Vos parents étaient des artistes ?
Alors, mon père était orfèvre ciseleur sculpteur.
Il y avait déjà de l'artistique dans la famille.
Voilà, et ma mère était dans le commerce, donc rien à voir du tout. On n'écoutait pas forcément de l'opéra à la maison. On avait droit à du Glenn Miller, c'était déjà pas mal.
Oui, c'est
on
pas
écoutait
mal.
Du New Orleans. mais effectivement, je pense que comme beaucoup de parents, ils auraient rêvé faire du piano et on a tous suivi un parcours
pianistique. Et le chant, vous aviez déjà des dispositions ou vous êtes venu, vous avez beaucoup travaillé pour devenir mezzo-soprano ? Vous aviez un don ? Ça s'apprend ou c'est donné au départ ?
Je ne pense pas. Enfin, il faut quand même des prérequis, c'est évident. Je ne pense pas que j'étais forcément douée. Je suis arrivée au chant par hasard. J'étais une enfant extrêmement timide qu'on n'avait jamais entendu chanter à la maison. Il se trouve que ma sœur s'est mariée, j'avais 19 ans, j'ai voulu faire une surprise en chantant une chanson et c'était la première fois que ma famille m'entendait. Et ça a tellement plu qu'ils m'ont dit « mais enfin, mais pourquoi tu ne chantes pas ?» Et donc j'ai été voir un professeur de chant et je voulais lui dire « mais est-ce que ça vaut le coup que je travaille ma voix ?» Et quand je suis arrivée face à cette professeure, son cours m'a tellement plu que j'ai jamais posé cette question. J'ai travaillé 4 heures par jour pendant des années jusqu'à devenir professionnelle. J'étais mordue du chant. Ça a été une révélation.
Et vous chantez toujours ?
Oui.
Vous produisez encore sur scène ?
Oui.
Régulièrement ?
Oui, moins qu'avant. J'ai été intermittente du spectacle aussi durant 17 ans. C'est vrai qu'en menant cette double carrière, c'est difficile d'être partout à la fois. J'aimerais, mais il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc je chante quand même moins.
On va pas vous écouter pour le coup cette fois-ci. C'est un choix de Gilles, hein, Zorato.
Oui.
Prokofiev.
Oui, tout à fait.
Pourquoi Prokofiev ?
Alors pourquoi Prokofiev ? Bon là, c'est un ballet, on va pas parler d'opéra. Mais on est toujours dans le thème Roméo et Juliette. Et je dirais qu'en fait, il y a une espèce de noirceur dans ce thème où on voit les... Bon, on est dans donc Roméo et Juliette, le bal des Capulet. Donc la famille des Capulet fait tout pour que Roméo s'éloigne. Donc Roméo qui est à Montaigu, comme tout le monde le sait. Et en fait, il y a ces chevaliers au milieu qui font tout pour que Roméo s'éloigne. Et j'aime bien, bon déjà j'aime, je dirais à l'oreille, déjà rien que ça, déjà c'est grandiose. Ensuite Prokofiev, j'adore Prokofiev. Et pour ceux qui ont vu Nourieff, dans les chorégraphies qu'il a fait là-dessus, je trouve ça sublime, tout simplement. Voilà. Et puis j'adore ce, il y a un thème récurrent qui revient et qui... Enfin,
alors, nous allons l'écouter, ça s'appelle La danse des chevaliers. Je précise pour le Toulousain de base que ce ne sont pas les chevaliers du fiel. Hein,
non,
parce que
tout à fait.
Il n'y a pas des gens très avertis partout.
Thank you.
avons entendu Prokofiev, la danse des chevaliers, Roméo et Juliette. Et nous retrouvons nos invités, Stéphane Houy, Dumoulin des Roches, Rachel Desmauris et Gilles Zorato. Rachel, on le disait au micro, elle est très très modeste, mais elle a eu quand même, elle est allée un peu en Allemagne, non ?
Il me semble qu'elle a fait un tour par la Bavière.
Oui, par la Bavière. Alors à Bavière, en Bavière, il y a Bayreuth. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Bayreuth ?
Eh bien, écoutez, Jacques, moi qui étais toute timide et qui n'osais pas prétendre au concours toulousain, avec toute mon inconscience, j'ai suivi une équipe et j'ai été passer mon concours à Bayreuth sans me rendre compte du niveau du concours. Et j'ai été lauréate du concours de Bayreuth.
Et vous voyez, comme quand on sait les choses, on se met la pression, alors que là, vous
c'est
êtes
ça.
Allé... Eh bien, félicitations. Alors, Stéphane Houy, qu'est-ce qu'on voit au Moulin des Roches actuellement ?
Alors, la revue Oups à Mozac, qui est une revue qui a commencé en septembre 2017, et la dernière saison de la revue So Good à Saint-Aurès. Voilà, c'est deux spectacles totalement différents.
Voilà. C'est pas la même troupe.
C'est pas la même troupe. Et après, on a aussi une troupe itinérante. Donc, on a plus de 70 artistes que l'on fait travailler.
Eh bien, bon courage.
Oui. Et puis maintenant, il y en a quelques-uns aussi de l'opéra qui sont venus se greffer au groupe. 22 de plus. Donc, on est presque arrivé à la centaine.
Bah écoutez, c'est une belle entreprise à qui nous souhaitons longue vie et surtout prospère vie.
Merci.
Merci.
Alors, vous avez le temps de lire avec tout ça. Vous savez que c'est la question traditionnelle que je pose à mes invités. Nous arrivons à la traditionnelle séquence littéraire. Vous lisez... Alors, vous m'avez parlé de livres. Oui, Raymond Le Cathar. Qui c'est qui m'a...
C'est moi.
C'est Gilles. Hein, donc, de celui qui fut notre maire, Dominique Baudis.
Tout à fait. Donc, il a écrit ce livre en 2001, je crois.
Oui, par là, oui.
Dans ces années-là. Bon... Alors je dirais bon.
Qu'est-ce qui vous a plu ? C'est parce que c'était Dominique Baudis, parce que c'était le Qatar.
Oui, je vais vous parler plutôt du Qatar et de Raymond VI. Après, bon, je n'ai rien contre Dominique Baudis, bien au contraire. Mais en fait, c'est vrai que je suis un gros lecteur. Je lis à peu près 2 à 3 livres par semaine. Et
ça prouve que vous avez le temps, hein. C'est bien la retraite.
C'est ça.
Hein.
Je dors pas beaucoup. Ah, voilà. Voilà aussi. Voilà. C'est surtout la nuit que je lis d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus calme la nuit. C'est beaucoup plus agréable. Et en fait, Raymond VI. Bon, déjà, c'est écrit par un personnage toulousain. Ça, c'est un fait. Raymond VI, bien sûr. Donc un des comtes toulousains.
On avait 2 comtes, Dominique Baudis, qui aurait pu être
comte, voilà,
quelque part,
déjà,
hein, en étant notre maire, il aurait pu l'être, voilà. Et Raymond Le Cathar. C'est quelle époque qui vous passionne, le catharisme ?
J'aime bien le catharisme, effectivement. J'aime bien le catharisme, tout ce qui s'y rapproche et toute l'histoire qui reste encore gravée dans nos murs.
C'est le côté rebelle au pouvoir central qui vous plaît ?
Non, pas spécialement, mais c'est je dirais plutôt le côté pur et le côté où on parle plutôt de spiritualité que de religion. Et même si je dirais je suis catholique, chacun ses religions, c'est pas un souci. Mais
allez en paix, mon fils.
Voilà, tout à fait. Et ite missa est. Mais bon, ceci étant, c'est vrai que voilà, j'aime la spiritualité et j'aime surtout donc ce personnage qu'en fait je connaissais pas trop. Et en fait, on se rend compte que déjà c'était un fin politicien. Et c'est quelqu'un qui a navigué, je dirais, entre différents pouvoirs pour sauver sa région. Et c'était surtout sa région et son peuple qui lui tenaient à cœur, plus que, je dirais, un attachement au royaume de France ou au royaume d'Aragon. Et puis, bon, il faut quand même savoir que si Pierre II d'Aragon, à l'époque, donc, n'était pas mort donc, sur la fameuse bataille de Muret, moi, je ne suis pas très, très loin de Muret, donc j'ai...
Mozac non plus.
Mozac non plus, voilà. D'ailleurs... je crois qu'à Vol d'Oiseau, entre Mozac et l'endroit où il y a eu la bataille de Muret, il y a peut-être 2 kilomètres à tout casser.
Oui, ça se tient.
Voilà, donc la bataille de Muret en 1213, pour ceux qui l'auraient oublié. Si Pierre d'Aragon n'était pas mort lors de cette bataille contre les troupes de Simon de Montfort, on serait certainement espagnol aujourd'hui.
Allez savoir, on a déjà une Andalouse dans le studio. Alors justement, l'Andalouse, elle a choisi, elle, de nous parler des jours de ma jeunesse d'Arthur Rubinstein, tout à fait d'autre chose. Pourquoi cet attachement ?
Ah, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, certainement parce que c'est un musicien. Ce qui m'a énormément marqué, c'est quelqu'un qui a eu une vie très difficile. C'était un fils de famille juive polonais, donc il n'a pas eu la vie facile à cette époque-là. C'est un homme champagne pétri de génie avec le panache de sa modestie. Et la modestie aujourd'hui, c'est rare avec autant de talent. Donc c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué et ça a été pour moi une leçon aussi grande que celle qu'on peut vivre avec un grand monsieur ou une grande dame dans une masterclass.
Vous avez bien sûr connu les masterclass.
Et oui, bien sûr, bien entendu.
Comment c'est les masterclass ? Il y a une pression ou c'est beaucoup plus détendu qu'on pourrait le penser ? On a quand même, c'est toujours animé par une figure, comme on dirait en matière tauromachique.
Oui, après, je ne parlerai pas de pression, je parlerai d'exigence, mais comme l'exigence, elle est déjà tournée vers soi-même quand on fait le choix d'aller dans une masterclass, on ne le vit pas comme une pression. L'exigence fait partie de l'artiste. Donc du coup, cette exigence-là, elle n'est pas une souffrance.
Les jours de ma jeunesse d'Arthur Rubinstein. Alors moi, je vais vous parler de tout à fait autre chose. Je n'ai jamais parlé de conte, mais parler d'un conte de Michel Rio qui est illustré par Marie Bélorger. Et ça s'appelle « Le chat, l'encou et le maori ». C'est l'histoire d'un chat breton qui décide de quitter sa crêperie, parce que quand on est un chat breton, on habite dans une crêperie, et qui va aller voir le monde. Alors vous allez retrouver de la poésie, de la verve, un tourbillon inventif et une aventure hors norme d'un chat cultivé. Tous les chats ne sont pas cultivés, mais celui-là est cultivé. Et vous allez voir tout au long de ce livre les très belles illustrations, fines, élégantes, parfois énigmatiques, de Marie Bélorger. C'est un beau moment de lecture et de rêve, une nuit, là, voilà, vous pourrez peut-être lire, hein, je vous rappelle, « Le chat, l'encou et le maori » de Michel Rio et de Marie Bélorger. Vous avez le temps de suivre un peu l'actualité ou non, ça, c'est pas quelque chose. Non, je ne vous interroge pas sur cette actualité si vous êtes débordant d'activité. Mais vous avez des projets.
Tout à fait, oui, c'est vrai qu'on n'est pas très accroché au programme télévisé. On écoute la radio, mais tout le temps un podcast parce qu'on n'est pas forcément.
Vous avez raison, c'est le principe d'Occitanie Première.
Voilà, on n'est pas forcément présent lors des émissions qui nous intéressent. Donc, en fait, on vit ça sur nos horaires.
Les projets du cabaret, Stéphane Louis, dont vous avez dit la dernière emmenée à Saint-Aurens d'un spectacle sous goutte, c'est ça ?
La dernière, le 30 juin, fin juin. Nouvelle revue septembre, on n'a pas encore le nom. Et donc, et les projets, c'est surtout longue vie à l'opéra, mais que ça dure le plus longtemps possible, avec le plus de dates possible. Et puis, c'est vrai que ça sera un projet qui va se concrétiser parce que c'est vrai que je sens bien l'histoire.
Quand vous dites nouvelle revue, ça veut dire qu'on change tout, on change les costumes,
Décors, les musiques.
Mais pas les artistes.
On refait une audition, quoi qu'il arrive, parce que bon, il y a certains artistes qui veulent aussi partir sur d'autres lieux. Et puis, bon, on peut aussi trouver des artistes qui vont plus peut-être nous convenir. Donc, on auditionne tout le monde.
Je vous présenterai Irène Finkel. Si vous avez dégoûté du troisième âge, je pense qu'elle peut faire une très, très belle meneuse de revue.
J'avais déjà regardé, j'ai jeté un œil. Il faudra qu'on discute.
Bon, écoutez, voilà une affaire qui va peut-être se faire sous l'égide d'Occitanie Première. Merci à tous les trois d'être venus.
On peut rappeler peut-être les prochaines dates.
Oui, bien sûr, il faut les rappeler. Oui, alors, puisque ce n'est que deux fois par mois.
Et voilà, donc les prochaines dates, et vous y êtes tous invités. Donc, ce sera le 8 mars et le 11 mars.
Voilà, et eh bien, si vous allez à Saint-Aurens, donc le 8 mars et le 11 mars, de Vérone à Paris, l'opéra de poche. C'était Cap et Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec à la technique Jean-Loup Arzac. Merci Jean-Loup. La semaine prochaine, on parlera de sculpture, avec Stéphane Langlois, qui est un sculpteur toulousain que vous devez connaître. Je vois des hochements dans la salle. Donc, il y en a qui le connaissent. Vous pourrez retrouver cette émission, ainsi que toutes les autres, sur la page Facebook de l'émission Occitanie Première, ainsi que sur le site de la station. Et n'oubliez pas, rediffusion de l'émission demain, mardi, à 12h. Le week-end prochain également. Qu'on se le dise. Bonne semaine à toutes et à tous. Adieu.